Les Canuts, troisième partie, chapitre 8. Malgré l'affluence énorme qui avait envahi la salle d'audience, Marius, après plusieurs heures d'attente, était parvenu à y pénétrer. Dans la vaste enceinte, éclairée par de hautes fenêtres grillagées du côté de la cour, c'était une atmosphère lourde et chaude. Debout dans l'espace réservé au public, pressés les uns contre les autres, les ouvriers s'entassaient, s'étouffaient, débordaient jusqu'à l'entrée du prétoire, où les huissiers les contenaient à grand-peine. Çà et là, des sentinelles baïonnettes au canon refoulaient la multitude qui poussait du dehors. Sur leurs sièges, les magistrats, inquiets, composaient leur attitude et ne prêtaient qu'une oreille distraite aux plaidoiries des avocats. Au banc des accusés, les six mutuellistes prévenus étaient assis, le front haut. Se sentant soutenus, ils comptaient que les juges, intimidés, n'oseraient pas condamner. La plus grande agitation régnait dans la ville. Depuis plusieurs jours, parmi les groupes d'ouvriers, on ne voyait que des regards menaçants, on n'entendait que des propos incendiaires. Les chefs du parti républicain avaient voulu retarder le jour du combat. L'insurrection serait trop hâtive. Aucun plan d'attaque n'était préparé. Mais, entraînés par la masse, ils n'étaient plus les maîtres. Ils ne pouvaient plus contenir l'exaltation de leurs hommes. Ils avaient dû céder. La nuit précédente, le comité d'ensemble s'était réuni. Il avait décrété la résistance et la révolte à main armée, au cas où les six chefs d'atelier seraient condamnés. À l'unanimité des suffrages, Lagrange avait été choisi pour diriger la lutte. Le mot d'ordre était « Association, résistance et courage ». De son côté, le gouvernement avait pris des mesures de précaution. Des troupes avaient été massées sur divers points de la ville. La cathédrale même, voisine de l'hôtel de Chevrière, était occupée par une compagnie de ligne. Le général Aymard, commandant de place, avait fait distribuer des cartouches aux soldats et enjoint à chaque régiment de prendre son drapeau. L'armée avait été travaillée par les républicains. Les désertions étaient à redouter. Par cette mesure, le général comptait les prévenir. Tout homme qui déserte son drapeau devant l'ennemi s'exposant à être fusillé. Comme le samedi précédent, une foule énorme encombrait la place Saint-Jean et les rues adjacentes. Aux abords du tribunal, la multitude des ouvriers et des curieux s'agitait tumultueusement. L'audience suivait son cours. Au banc des avocats, Maître Jules Favre, déjà connu pour ses attaches républicaines, poursuivait sa plaidoirie. Deux fois, la foule enthousiasmée avait éclaté en applaudissements. Deux fois, le président irrité avait, au milieu des murmures, menacé de faire évacuer la salle. Le jeune défenseur, d'une voix chaude et vibrante, rappelait les motifs de la poursuite. « Ce procès, disait-il, se rattachait directement aux causes qui tourmentaient la société et remuait jusqu'au fond de ses entrailles des germes de vie ou de mort. On accusait les chefs d'atelier de conspiration industrielle dans le but d'exploiter les fabricants. Mais les véritables intéressés avaient eux-mêmes adhéré jadis aux réclamations qu'on leur adressait et qu'ils repoussaient à présent. Il était aisé de voir que les gouvernants avaient peur des classes ouvrières. Ils s'imaginaient qu'elles devaient être muselées pour que l'administration fût possible et le pouvoir debout. Cependant, ces poursuites, quelque imprudentes qu'elles fussent, n'avaient point été inutiles. Elles avaient appris ce qu'était ce peuple ouvrier qu'on avait, tour à tour, si fort adulé et calomnié. Puissance indéfinie, qu'on nomme souveraine et qu'on affame, à laquelle on prodigue de jalouses caresses, et qu'on ne craint point de briser avec des régiments et des bastilles. On avait pu voir son énergique et simple bon sens, la fermeté inébranlable qu'il puisait dans la conscience de sa force et de son droit, et se convaincre qu'il valait mieux lui dire en face ses vérités toutes dures que de le payer d'une hypocrite méfiance qu'il ne méritait point. D'autre part, ce procès avait prouvé aux ouvriers qu'une loyale et pacifique union pouvait seule améliorer leur sort. Cette double démonstration valait bien la solennité d'une audience. Sous quels auspices s'était formée la société des mutualistes? À ces propos, le défenseur décrivait l'organisation de la fabrique, le chef d'atelier, intermédiaire entre le compagnon ouvrier et le fabricant, entre le capitaliste qui possède et le travailleur qui n'a que ses bras pour le lendemain. Depuis longtemps déjà, l'ouvrier en soi avait senti le besoin de résister aux calamités pressantes que faisaient fondre sur sa classe les concurrences intérieures et extérieures. Le malaise s'accroissant de jour en jour, la société des mutualistes s'était formée. C'était une alliance défensive pour lutter avec moins de désavantages contre la misère et les accidents de la vie. Les membres s'engageaient à se soutenir réciproquement dans leur maladie, à se prêter des instruments de travail. Coalition aussi honorable pour ceux qui la formaient que rassurante pour la paix de la cité. On lui avait donné une organisation régulière et des chefs. Des assemblées périodiques avaient été déterminées, mais toutes pacifiques et d'intérêt privé, causantes plus que délibératives, entourant sans mystère la table d'un cabaret et placées sous la présidence d'un membre qui maintenait le silence et prévenait la confusion. Ainsi réunis, les tisseurs s'étaient éclairés mutuellement. Mais ils ne s'étaient point tout dit en se communiquant leurs procédés d'industrie, en pourvoyant au secours à distribuer. Ils avaient encore à se plaindre, car ils souffraient. Quand un orage ébranlait l'État, la consommation se restreignait, les productions languissaient et le fisc devenait plus avide. Les dépenses augmentaient, les ressources diminuaient. Les salaires étaient plus faibles, les impôts plus forts. Que devenait le travailleur pauvre? Si quelque épidémie n'était pas là pour le délivrer de ce monde, il était poussé au désespoir. Mais lorsqu'à des causes générales de détresse, on ajoutait des spéculations sur sa misère, ne comprenait-on pas qu'il s'irrita et se jeta dans la rue en demandant à la société du pain ou des balles? D'ignobles trafics avaient été faits et figuraient aux inventaires de quelques négociants qui maintenant aumônaient fastueusement les ouvriers qu'ils avaient volés. Honte à ces richesses hypothéquées sur la rapine, arrachées aux sueurs du peuple. Quel homme juste ne sentait gronder sa colère au récit de ces odieuses exactions? S'indignant, maître Jules Favre disait les torts de certains fabricants, les griefs des ouvriers. Dehors, soudain, un coup de feu retentit, suivi de clameurs et de cris. Au bruit, le défenseur s'arrêta. « Je ne puis, déclara-t-il, continuer ma plaidoirie pendant que les citoyens s'égorgent à quelques pas du tribunal. » Aussitôt, les magistrats, les accusés, les témoins, les avocats se levèrent, pâlissant. Le feu venait d'être mis aux poudres. C'était le commencement de la lutte. Au milieu d'un silence de mort, le président suspendit la séance. Le public sortit pêle-mêle, à la hâte, tandis que les gendarmes emmenaient les prévenus. Dès premier, Marius s'élança dehors. Une grande rumeur s'élevait dans la foule. Deux sergents de ville apportaient dans la cour de l'hôtel un homme couvert de sang. Le ventre troué par une balle, la victime poussait des cris déchirants et, par une plaie béante, ses intestins sortaient. De toutes parts, dans la cohue houleuse, des bras menaçants se tendaient. Marius aperçut son compagnon Simon et courut à lui. « Qu'y a-t-il donc, bon Dieu ?» L'ouvrier lui expliqua ce qui venait de se passer. Depuis le commencement de l'audience, des attroupements encombraient la place. Cependant, la foule était demeurée calme, jusqu'au moment où des agents avaient voulu arrêter un individu qui, du haut d'une borne, lisait une proclamation. Des ouvriers avaient bousculé les agents et délivré leurs prisonniers. À partir de cet instant, le tumulte était allé croissant. Des hommes, étrangers au quartier, s'étaient répandus dans les groupes, excitant les ouvriers. Puis, avec les matériaux d'une maison en construction, ils s'étaient mis à élever deux barricades, l'une à l'entrée de la rue Saint-Jean, l'autre à l'entrée de la rue de la Brèche. Alors, les agents repoussés étaient revenus à la rescousse, suivis d'un détachement du 7e léger, ayant à leur tête un commissaire de police ceint de son écharpe, pour faire les sommations légales. Ils s'étaient dirigés sur les barricades. Les soldats avaient croisé la baïonnette et un coup de fusil, parti on ne savait d'où, avait atteint mortellement l'agent qu'on venait d'emporter. Comme Simon racontait, un homme s'approcha brusquement de Marius. « Tu es bien le citoyen Marius Jacquemin ?»«
Oui. » »«
Tiens. » L'inconnu lui glissa un billet dans la main, s'éloigna rapidement et se perdit dans la foule. Fiévreusement, Marius déchira l'enveloppe. Sur une carte, il lut ces deux mots. « Aux armes !» C'était le signal du comité.
« 10 hommes de bonne volonté » cria-t-il. « Qui veut servir la cause du peuple ?»«
Moi d'abord !»
dit Simon.
« Où vous irez, j'irai !»
Une douzaine d'ouvriers s'offrirent.
« Et il ne m'en faut que 9, » reprit Marius. « Mais patience, tout à l'heure il y aura de la besogne pour tous. »
9 hommes s'avancèrent résolument.
« Eh bien, par ici, »
dit Marius. Et à leur tête, il courut vers la vieille maison de la rue Saint-Jean. Mais de toutes parts, un immense cri s'élevait.
« Aux armes ! Aux armes !»
Une grêle de pierres lancée des barricades et pleuvant sur les soldats avait blessé grièvement un colonel et une vive fusillade répondait à l'agression des insurgés. Le maréchal de camp Bûcher venait d'ordonner l'attaque des barricades. Fuyant vers les rues, la foule qui occupait la place répétait comme un glas funèbre.
« Aux armes ! Aux armes !»